Bienvenue si vous nous rejoignez, l'heure est au débat sur RFI.
Le débat du jour. Romain Ozoui.
Et voilà un sujet qui, quotidiennement, s'invite dans l'actualité internationale, qui revêt des enjeux sanitaires, économiques, également très politiques, et pour lequel les autorités du monde entier s'illustrent par leur vulnérabilité. Ce sujet, c'est celui de la drogue. Un chiffre d'affaires annuel de 250 milliards de dollars dans le monde, quasiment le PIB de la Finlande. Des dealers qui se frottent les mains, et au fur et à mesure que les substances évoluent, et bien la narcocriminalité qui se propage. Notre question ce soir, peut-on réguler le marché de la drogue? C'est la proposition de la maire d'Amsterdam, aux Pays-Bas. Légaliser, est-ce favoriser la consommation? Et puis comment sortir d'un débat émotionnel et moral sur ce sujet? Soyez les bienvenus dans le débat du jour. Allez, pour répondre à ces questions, nos trois invités à mes côtés en studio, Anne Souiris, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sénatrice du groupe écologiste, membre de la commission des affaires sociales. Face à vous, Ivana Obradovic, bonsoir.
Bonsoir.
Directrice adjointe de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, votre livre Le Cannabis aux éditions La Découverte est sorti il y a 2 ans. Sarah Perrin, bonsoir.
Bonsoir.
Notre troisième invité, vous êtes en ligne avec nous, vous êtes sociologue, autrice du livre Femmes et drogues, trajectoire d'usagère, revendeuse, insérée socialement à Bordeaux et à Montréal. Merci beaucoup à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. Ivana Obradovic, que représente le trafic de drogue dans le monde aujourd'hui? Alors, c'est une question un peu vaste, mais est-ce qu'on a quelques chiffres, quelques tendances au moins, pour savoir si, déjà, est-ce qu'il est en hausse, est-ce qu'il est en baisse, et puis quelles sont les grandes menaces aujourd'hui concernant ce trafic de drogue?
Vous l'avez dit, le trafic de drogue, c'est des milliards de dollars dans le monde. Mmh. Avec des dynamiques de trafic qui sont ciblées sur ce qu'on appelle les opioïdes, en particulier les opioïdes de synthèse en Amérique du Nord, puisqu'il y a actuellement une épidémie sanitaire autour de ces produits, le plus connu étant le fentanyl. Et puis plus largement, les drogues de synthèse et les stimulants, en particulier la cocaïne, sont à la hausse dans un grand nombre de pays, en particulier en Europe. C'est vraiment ça la dynamique principale des 10 dernières années en Europe, l'augmentation de l'offre de cocaïne qui arrive beaucoup par les ports du nord de l'Europe. Ouais. Et la France étant dotée d'une façade maritime assez importante, ces ports servent de plus en plus de porte d'entrée à la cocaïne. Ouais. Alors, la France n'est pas forcément le marché de destination dans tous les cas, c'est parfois un pays de transit pour une cocaïne qui est destinée à d'autres pays de l'Union européenne. Mais en tout cas, c'est vraiment ça la tendance des dernières années. Pour vous donner une idée, actuellement, chaque année, on saisit dans le seul port du Havre l'équivalent des quantités de cocaïne qu'on saisissait dans l'ensemble de la France il y a 10 ans. Donc ça montre bien l'accélération de la diffusion de cette offre qui est liée à un niveau de production mondiale de cocaïne qui n'a jamais été aussi élevé.
L'accélération des saisies ou l'accélération du trafic?
Alors, ce qu'on voit, c'est les chiffres des saisies, puisque c'est notre indicateur d'offre le plus fiable et qu'on peut mesurer dans le temps. On considère, alors ça c'est une estimation qui a été faite dans le port d'Anvers, par exemple, qui est le port européen le plus touché par l'arrivée de cocaïne, que les quantités interceptées de cocaïne, ça serait à peu près 10 à 20% de l'offre réelle. Donc sans doute les chiffres de saisie ne reflètent qu'une partie du phénomène.
Alors je vais vous poser une deuxième question un peu générale. On a fait le point sur ce que représente aujourd'hui le trafic de drogue dans le monde. Et quels sont les résultats aujourd'hui de la lutte contre le trafic de drogue? Est-ce qu'on peut dire, alors évidemment nos invités vont abonder dans votre sens ou pas, mais qu'elle est satisfaisante?
C'est très compliqué de répondre à une question aussi générale, puisque les politiques de lutte contre les drogues sont très diversifiées, de plus en plus diversifiées même, puisqu'il y a des pays qui aggravent les sanctions, y compris pour la simple consommation, entre guillemets, et d'autres qui allègent ces sanctions-là, voire qui vont jusqu'à la légalisation.
Il y a des coordinations. Par exemple, vous citiez justement le port d'Anvers, premier port d'entrée de la cocaïne en Europe. Il y a eu cette alliance des ports européens qui a été annoncé en début d'année par l'Union européenne. Donc il y a des coordinations. Alors au niveau européen déjà, est-ce qu'il y en a ailleurs dans le monde?
Il y a une activité de coopération internationale qui est importante, au niveau de l'Union européenne en particulier. Et puis des élus locaux aussi qui se parlent et qui cherchent à échanger autour des problématiques qu'ils rencontrent, notamment autour du trafic. Donc voilà, on en est là aujourd'hui avec des politiques qui se sont beaucoup diversifiées. C'est-à-dire que l'écart entre les politiques les plus répressives et les politiques qui vont vers la légalisation, cet écart, il s'est creusé de plus en plus.
Anne Souris, comment vous jugez, vous, ces politiques de lutte contre le trafic de drogue aujourd'hui ?
Simplement comme inefficace. Hein. Elle date des années 70, maintenant il y a un certain temps. Il y a eu une coopération effectivement qui s'est mise en place tout de suite. Hein. Le programme des Nations Unies contre les drogues, ça a été mis en place assez rapidement. Et il se trouve qu'on n'a aucun résultat positif de ces politiques depuis les années 70. C'est quand même un vrai sujet. C'est-à-dire, si on regardait simplement en termes d'efficacité des politiques, après, on peut réfléchir à qu'est-ce que c'est qu'une efficacité politique. Est-ce que c'est en termes de sécurité, de santé, de survie aussi des personnes?
Mais quand on a des saisies records, c'est pas efficace?
Qu'est-ce que ça signifie ensuite? Est-ce que si on a 10 fois plus de saisies, mais qu'il y a 10 fois plus de trafic de cocaïne, non? Ça n'est pas efficace. Vous voyez, c'est le problème, c'est le résultat après en termes de santé et en termes de sécurité localement. Et on n'a vu aucun retour et retour en arrière, en tout cas quelque chose à mieux arriver d'un point de vue même de sécurité, quelquefois sur un petit moment quand on met toute la police présente en permanence, mais dès que la police part, ça recommence. Donc en fait, la question, c'est d'avoir des politiques pérennes, efficaces. Et dans une démocratie moderne, c'est-à-dire avec des gens qui sont capables aussi de réguler ces consommations.
Mais en quoi les enjeux sont sécuritaires aussi? Parce qu'effectivement, on parle de narcotrafiquants. Quelle est la part de la criminalité liée au trafic de drogue? Parce qu'on a d'abord parlé de l'enjeu sanitaire avec Ivana Obradovic, notamment le fentanyl. Et pour abonder, effectivement, c'est la première cause de mortalité, pour bien que les auditeurs se rendent compte, aux États-Unis, des 18-49 ans. Qu'en est-il de l'enjeu sécuritaire?
L'enjeu sécuritaire, c'est que actuellement, pourquoi on a une politique aussi répressive en France, c'est que simplement il y a une telle criminalité autour de la drogue que le dynamisme logique, si normaliser des politiques, c'est de faire toujours plus de répression. Mais parce que il y a toute une économie qui fonctionne exclusivement sur cette criminalité, qui permet de faire survivre plus une population. Là, on a une crise quand même économique hors norme depuis quelques années. Plus il y a une crise économique importante, plus cette cybercriminalité fait vivre des gens qui sinon seraient dans une situation terrible. Donc, au lieu d'y répondre par à la fois une politique sociale, à la fois une politique économique et à la fois aussi une politique sanitaire, de démocratie sanitaire, on répond par d'un déploiement policier. Moi, je remarque juste que malgré les efforts faits par la France, on reste le pays le plus consommateur, et avec en particulier des très jeunes consommateurs. Et des problèmes d'overdose, des problèmes extrêmement graves, qu'ont pu combattre d'autres pays qui ont fait autrement et qu'on ne regarde pas.
Donc la stratégie de la France, c'est, pour reprendre les propos du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, le pilonnage des points de deal. Donc là, on est clairement sur de la répression, puisque, je voudrais donner à présent la parole à Sarah Perrin, qui est sociologue. Ivana Obradovic nous disait que le spectre, finalement, des politiques de lutte contre la drogue est très large, allant de la répression à la légalisation. Vous qui êtes sociologue, Sarah Perrin, que révèle ce spectre sur cette question qui reste quand même éminemment morale, émotionnelle, je dirais?
Ce que ça révèle, c'est que les politiques répressives ne fonctionnent pas, puisque si elles fonctionnaient, la terre entière les adopterait, si l'objectif premier, c'est d'éliminer les consommations et les trafics. Donc la diversification des réponses politiques, elle symbolise en fait l'absence d'efficacité de cette politique prohibitionniste. Pour avoir fait un terrain assez important à Montréal, où le cannabis a été légalisé en 2018, le cannabis à usage récréatif, j'ai pu constater directement sur le terrain les bienfaits pour les usagers d'une politique beaucoup plus souple, que ce soit sur le plan de la santé ou de la sécurité publique. Et en comparant avec le terrain bordelais, j'ai constaté à quel point les consommateurs à Bordeaux, et les consommatrices notamment, se sentent en insécurité, ne savent pas ce qu'ils et elles consomment, sont contraints de recourir à des marchés illicites, alors que la plupart souhaiteraient pouvoir passer par des marchés légaux. Et puis, quand on fait mention du fentanyl, par exemple, il est complètement illusoire de croire qu'une politique prohibitionniste viendra à bout des usages de drogue. Si on prend un peu de recul anthropologique, les usages de drogue existent depuis que l'humanité est humanité. Donc, à partir de là, une crise de santé publique telle que celle que connaît l'Amérique du Nord avec les opioïdes de synthèse ne sera jamais résolue par une politique prohibitionniste. Il faut forcément aller vers une autre stratégie.
C'est intéressant que vous citiez l'exemple du Canada parce qu'il y a eu des enquêtes qui ont été menées, notamment au Canada, mais également en Uruguay, en tout cas dans certains États où le cannabis a été légalisé, plusieurs États américains également. Et il en ressort finalement que la légalisation a contribué à une hausse de la consommation.
Alors, ça dépend vraiment des zones où vous observez, où vous faites les enquêtes. Moi, je me suis concentrée sur le Canada et en fait, ce qui a été observé, c'est qu'il y a eu une légère hausse de la consommation après la légalisation, notamment chez des publics qui, de base, ne recouraient pas au marché illicite. Par exemple, des personnes de plus de 50 ans qui ont décidé d'expérimenter le cannabis parce que c'est devenu légal. Après, si on regarde, donc l'expérimentation, c'est l'usage au moins une fois dans la vie, mais si on s'intéresse aux usages réguliers, donc c'est-à-dire plusieurs fois dans le mois, ils n'ont pas augmenté plusieurs années après la légalisation et les usages chez les jeunes n'ont pas augmenté non plus, voire on observe plutôt une tendance à la baisse au Canada. Donc en tout cas, en fait, il y a tellement de modèles, on parlait des réponses prohibitionnistes différentes, il y a aussi une centaine de modèles différents, plus ou moins de légalisation. Et donc, par exemple, la façon dont le Colorado, le Québec, l'Ontario au Canada ont légalisé les drogues, c'est à chaque fois complètement différent. L'Allemagne, qui vient de légaliser, adopte également un modèle qui va lui être propre. Donc, en fait, les chiffres dont vous parlez sont à mettre en relation avec les modèles de légalisation qui ont été adoptés. Je me suis intéressée au modèle de légalisation québécois, et donc les tendances que je vous rapporte sont au Québec.
Et c'est à mettre en perspective aussi avec les drogues concernées, Ivana Obradovic, parce qu'on parle beaucoup de cannabis là, mais légaliser le cannabis, c'est pas pareil que légaliser le fentanyl, la cocaïne ou la MDMA. On en arrive à notre question, peut-on réguler le marché de la drogue, puisque la maire d'Amsterdam, elle, prône une régulation des drogues dures. Vous êtes pour ?
Alors, nous, à l'OFDT, on produit de l'expertise et on ne se prononce pas dans ce type de débat. Et justement, dans ce cadre-là, on a été la première équipe française à aller justement au plus près des terrains où le cannabis a été légalisé pour voir un peu les résultats et interroger les agences publiques de régulation sur les problèmes qu'ils rencontrent au quotidien. Alors, vous posiez la question de la hausse de la consommation. Effectivement, c'est la tendance qu'on voit chez les adultes en particulier, et tout particulièrement aux États-Unis, puisqu'il y a la moitié des États aujourd'hui qui ont légalisé le cannabis aux États-Unis, le cannabis à usage non médical, qu'on appelle parfois récréatif,
contre l'interdit fédéral d'ailleurs. Récemment, la légalisation du cannabis à usage récréatif.
Alors, on parle quasiment pas de la même chose. Effectivement, c'est une légalisation, mais dans le cas de l'Allemagne, ce qui est légalisé, ce qui est autorisé maintenant, c'est l'autoproduction privé, c'est-à-dire le fait de cultiver quelques plants chez soi, trois plants. Bientôt, on pourra acheter dans des cannabis social clubs, des sortes de coopératives de producteurs. Voilà. Et puis, la possession dans l'espace public est autorisée, c'est-à-dire qu'on risque plus des poursuites judiciaires si on a quelques grammes de cannabis sur soi. En revanche, la consommation dans les lieux publics, elle est extrêmement réglementée.
Mais encore une fois, l'enjeu du cannabis n'est pas du tout le même que l'enjeu des drogues dures. Que la MDMA, que la cocaïne, que le fentanyl.
Alors déjà, cette notion de drogue dure, elle n'a pas vraiment de base scientifique. Elle vient de la législation néerlandaise, puisqu'aux Pays-Bas, depuis une loi de 76, celle qui crée les coffee shops d'ailleurs, il y a eu cette idée de distinguer les drogues douces et les drogues dures. L'idée, c'était quoi ? C'était de séparer les marchés, de faire en sorte que les usagers de cannabis, drogue douce dans la législation néerlandaise, ne rencontrent pas les usagers d'héroïne ou de cocaïne en allant s'achalander dans les mêmes points de deal. C'était ça l'esprit de la loi des Pays-Bas. Sauf que cette loi, elle a créé un paradoxe, puisque dans les coffee shops, on peut acheter et consommer légalement, mais ce cannabis-là, il provient du marché illégal, puisque aucun État n'avait légalisé le cannabis en Europe à cette époque-là. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle le paradoxe du backdoor système avec une zone grise juridique qui fait que maintenant, justement, aux Pays-Bas, il y a une expérimentation en cours qui autorise une dizaine de municipalités à produire légalement, de façon très contrôlée, du cannabis pour approvisionner les coffee shops avec du cannabis dont on connaît très précisément la composition.
Anne-Souris, ça vous inspire quoi, cette proposition de réguler le marché de la drogue?
D'abord, il y a deux sujets. Il y a la dépénalisation de l'usage, et il y a la question de la légalisation, donc de la production, de la réflexion sur la production. Et déjà, la dépénalisation, c'est important parce que beaucoup de pays ont commencé à le faire. En Europe, on voit entre le Portugal, l'Espagne, la Suisse, un certain nombre de pays ont dépénalisé l'usage d'une manière ou d'une autre.
Ça veut dire ne plus criminaliser, entre guillemets, l'usager.
Exactement, que l'usager soit considéré, soit de toute façon comme un citoyen d'abord et pas comme forcément quelqu'un de pénalement répréhensible, et puis ensuite aider si besoin. Donc ça, c'est déjà... Qu'est-ce qu'on a vu comme résultat? Ouais. On peut se dire, y compris sur les drogues dures. Donc là, je le dis parce que justement, là, il n'y a pas de différenciation sur ces questions-là. Mais on a vu des résultats très positifs en termes de nombre de morts, en termes de criminalité, en termes aussi un sujet qu'on n'aborde peut-être pas assez, c'est la question de la consommation de rue. Vous avez à Paris la plus grande consommation de rue d'Europe. La consommation de rue, en l'occurrence, c'est surtout du crack actuellement, mais il y a d'autres produits qui sont consommés, donc des drogues dures, comme vous dites. En fait, maintenant, on fait plutôt une différenciation du type d'usage plutôt que des drogues elles-mêmes. Mais enfin, parlons de ce type de drogue. Et le problème est plutôt celui-là. Pourquoi, à Paris, tout d'un coup, on se demande, tout le monde est inquiet, pourquoi M. Darmanin, quand il a installé le préfet de police, il lui a donné une première mission, c'était d'arrêter avec le crack à Paris. Son problème, c'était la consommation de rue, qui est un problème vraiment et de sécurité et de santé publique. Et derrière ce problème de sécurité et de santé publique, il y a un problème social évident. Et c'est une résolution sociale qui permet les choses. Quand Copenhague, quand des villes comme Utrecht ou comme Lausanne ou comme beaucoup d'autres villes se sont mis à vraiment avoir une politique de dépénalisation et d'aide aux personnes qui étaient dépendantes et qui consommaient dans la rue, eh bien, il n'y a plus eu de criminalité de rue aussi. Mmh. Vous voyez, il y a quand même des strates différenciées. Ensuite, la question de la légalisation, c'est vraiment la question de la production.
Pardon, mais la dépénalisation, elle s'accompagne de mesures. Je vais citer, par exemple, des endroits où il y a eu justement une décriminalisation de l'usager. Soi-disant, ça s'accompagnait d'une sensibilisation, d'un accompagnement sanitaire qui n'a pas toujours été à la hauteur derrière.
Vous pensez à quoi ?
Par exemple, ce qui a été vu dans l'Oregon, par exemple, à Portland notamment. Il y a eu des données qui ont montré que finalement, pour faire simple, arrestation, c'est pas une arrestation, mais d'un usager de fentanyl, par exemple, il n'est pas criminalisé puisqu'il y a une décriminalisation, mais on lui donne un papier l'incitant à appeler tel numéro pour aller vers des services sociaux, et puis il jette le papier en boule et puis il continue d'avancer. Ce sont des choses qui ont été vues.
Vous savez, on ne force jamais quelqu'un qui est dépendant à sortir de sa dépendance. Il faut l'accompagner, mais après, il y a un travail qui doit se faire de sa part à lui.
Mais est-ce que l'accompagnement, aujourd'hui, il est prêt, suffisant pour accompagner la décriminalisation
question. On a vu aussi des différences dans les pays qui ont mis les moyens ou pas mis les moyens. Et ceux qui ont mis les moyens en dépénalisant, mais en mettant vraiment des moyens, ont réussi socialement et à faire aussi sanitairement, à faire baisser les choses. Alors que ceux qui le faisaient à moitié, eh bien, évidemment, il reste des gens, par exemple, dans ce cas-là, dans la rue. Il reste de la consommation de rue. Et quand il reste de la consommation de rue, vous réenclenchez du deal de rue et donc tout un système. Donc, il y a vraiment un... Mais c'est pas par une répression majeure, c'est par un accompagnement majeur. Et ça veut dire aussi, évidemment, des salles de consommation à moindre risque, mais ça veut dire aussi de l'hébergement, ça veut dire de l'accompagnement à tous les niveaux.
Qui est peu présent aujourd'hui.
Qui est peu présent
en France, mais dans le monde.
Qui est présent dans d'autres pays. Bien sûr que oui, il y a des pays qui l'ont fait. Mmh. Le Danemark l'a fait et s'en sort extrêmement bien.
Peut-on réguler le marché de la drogue? La question qu'on pose ce soir dans le débat du jour. Anne Souyris, qu'on vient d'entendre, sénatrice du groupe écologiste, membre de la commission des affaires sociales. Ivana Obradovic, directrice adjointe de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives. Et Sarah Perrin, à qui je donnais la parole à présent, sociologue. Sarah Perrin, vous nous avez finalement expliqué les bienfaits de la légalisation qui a pu être observée notamment au Canada, à certains endroits du Canada, du cannabis. Moi, je posais un petit peu la question de comment on pourrait réguler. En écho, encore une fois, à cette proposition, puisque c'est ce qui est le point de départ de notre débat ce soir, la proposition de la maire d'Amsterdam de réguler les drogues dures, la cocaïne, la MDMA notamment, vendre la cocaïne en pharmacie, etc. Comment est-ce qu'on peut parvenir à une régulation du marché de la drogue aujourd'hui ?
Alors, moi, je pense qu'il y a différents modèles, encore une fois, et le modèle que je promeux et qui est aussi promu par la mairie de Bègles, puisque le maire de Bègles, Clément Rossignol-Puech, souhaite mettre en place une expérimentation locale de la légalisation encadrée du cannabis, et je pense que ce modèle de légalisation encadrée serait transférable aux autres substances. Je n'ai pas de méthode miracle, hein. Pour ça, il faudrait évidemment réunir autour de la table des économistes, des médecins, des acteurs politiques, des sociologues, etc. etc. Donc à moi toute seule, je ne pourrais pas vous proposer un modèle clé en main. En revanche, ce qu'on sait, c'est que donner accès à des produits dont on peut vérifier la qualité, dont on peut contrôler la production au même titre que l'alcool, au même titre que le tabac, au même titre que les médicaments. Parce que si, voilà, j'entends bien que la distinction drogue dure, drogue douce est très prégnante dans les discours. Dans ce cas-là, ces produits qui sont les produits qui font le plus de méfaits en termes de santé publique, hein, l'alcool et le tabac, comment vous les classifiez?
Non, mais c'est intéressant d'observer effectivement l'alcool et le tabac, finalement, il n'y a pas d'interdiction. Et l'alcool est considéré comme l'une des drogues les plus dangereuses, finalement. C'est un bon écho sur notre débat, ça.
Tout à fait. Et on voit bien que quand les États-Unis avaient tenté, au moment de la prohibition, d'interdire l'alcool, ça avait créé plus de méfaits que de bienfaits, puisqu'on s'était retrouvé avec de l'alcool frelaté, fabriqué de manière artisanale. Donc, c'est en fait ce qu'on observe aujourd'hui pour toutes les substances illicites. Du coup, les personnes continuent à consommer, mais elles se retrouvent à consommer des produits dont elles ne connaissent pas les teneurs, dont elles ne connaissent pas la composition. Elles peuvent se faire arnaquer. Donc, on voit en Amérique du Nord des usagers qui consomment du fentanyl sans être au courant de base. On avait vu pendant la crise sanitaire du Covid en France des arnaques aux cannabinoïdes de synthèse chez des usagers qui pensaient fumer un joint tout à fait normalement et qui s'étaient retrouvés à l'hôpital, voire il y avait eu des décès. Donc, ce qu'on sait, c'est que, d'après moi, la seule manière de résoudre le problème de santé publique des drogues aujourd'hui, c'est de donner accès aux usagers à un produit dont ils peuvent contrôler la provenance, la composition, etc. Et tout ça, pour moi, ne peut se faire qu'avec un contrôle étatique.
D'accord. Donc, c'est à l'État de prendre ses responsabilités. Mais alors, tel que vous nous le dites, la régulation du marché de la drogue, c'est parfait. Ça permet une traçabilité des produits. Ça défait les trafiquants. Quels sont les freins? Pourquoi est-ce que ce n'est pas mis en place?
Alors, le frein, à mon avis, il est essentiellement politique et moral. Donc moral parce que, d'ailleurs, dans la population générale, voilà, on touche à des choses qui ont trait à l'émotionnel, parce que les gens ont du mal à comprendre. Il y a vraiment une distinction qui est faite entre, par exemple, l'alcool et la cocaïne ou même le cannabis dans les représentations, où il y a vraiment une stigmatisation encore des usagers. Et puis au niveau politique, pourquoi ce n'est pas mis en place? Eh bien parce qu'on sait que la guerre à la drogue, c'est bien plus une stratégie électorale qu'une politique sanitaire ou même sécuritaire. Monsieur Gérald Darmanin et d'autres membres du gouvernement disaient en ce début d'année que les consommateurs avaient du sang sur les mains. Mais en réalité, les personnes qui ont du sang sur les mains aujourd'hui, ce sont les acteurs politiques qui ne remettent pas en cause des stratégies dont on sait qu'elles sont inefficaces. Donc, pourquoi ils ne les mettent pas en place? Parce que, à mon humble avis, et d'après aussi d'autres recherches, en fait, la guerre à la drogue, ça permet d'afficher. Ça fait un affichage médiatique. Ça permet de prendre en photo des saisies avec des policiers. Ça permet de donner des chiffres. Ça permet de faire des grandes déclarations face à la presse. Alors que c'est beaucoup plus difficile, par exemple, de quantifier la diminution des actes de violence dans l'espace public ou du harcèlement de rue, etc. Alors que les saisies, ça, c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose qu'on peut montrer. Non pas que les saisies soient représentatives de l'étendue des marchés. Hein. Mais voilà, pour moi, on est dans une politique électorale, finalement. Voilà.
Ivana Obradovic, est-ce que vous êtes d'accord avec ces propos, à savoir que l'enjeu de le trafic de drogue, c'est un enjeu, on a dit, sanitaire, économique, encore une fois, je rappelle, hein, le PIB quasiment de la Finlande, le trafic de drogue dans le monde, mais finalement, la réponse, elle n'est que politique, donc c'est un problème qui ne sera jamais résolu.
Bah encore une fois, moi, je m'exprime du point de vue de l'expertise de l'OFDT. Et ce que montrent nos études, c'est que les résultats sont très différenciés suivant le type de régulation qui est mise en place.
Et il dépend, en tout cas, il dépend clairement aussi du modèle étatique en place. Okay.
C'est ça. Et ça dépend aussi de l'objectif prioritaire qui est donné au moment de la légalisation du cannabis, par exemple. Est-ce que c'est la santé publique? Est-ce que c'est la sécurité et le fait de réduire le marché noir? Est-ce que c'est la profitabilité économique, comme ça a été le cas aux États-Unis? Est-ce que c'est la justice sociale, puisque dans un certain nombre d'États américains, le pari de la légalisation, c'était de réduire les disparités socio-raciales dans les interpellations pour des affaires de stupéfiants? Donc voilà, tous ces objectifs existent dans tous les États qui ont légalisé, mais ils sont concurrents. Et pour prendre un seul exemple, suivant le niveau de taxation qu'on va imposer sur le cannabis légal, s'il est élevé, par exemple, on va dissuader la consommation, mais on va aussi dissuader l'entrée sur le marché légal des opérateurs économiques illégaux d'hier. Donc ça veut dire qu'il faut savoir si l'objectif, c'est vraiment de réduire le marché noir et donc d'avoir des opérateurs qui proposent un cannabis légal qui soit accessible, par exemple, au niveau du prix, ou si c'est de réduire vraiment la consommation.
Anne Souris, une dernière question, il nous reste environ une minute. Est-ce que vous croyez en la capacité de réunir autour de la table tous les acteurs concernés? Sarah Perrin a commencé à les évoquer, ils sont importants.
Écoutez, oui, je le pense. Hein. Quand j'étais adjointe à la santé à Paris, il y a encore quelques mois, j'avais organisé plusieurs voyages, un à Copenhague et un autre à Lausanne, avec les différents acteurs, avec la préfecture de police, préfecture d'Île-de-France, avec le parquet, avec l'Agence régionale de santé, donc avec les différents acteurs pour leur montrer, pour qu'on aille ensemble voir ce qui fonctionnait en Europe et ne pas rester sur une idéologie, simplement, et en prenant pas simplement les acteurs de santé. Et je peux vous dire que c'est des choses qui fonctionnent parce que personne n'a envie de rester dans cette situation-là, en réalité. Donc moi, ce que je pense, c'est qu'il ne faut pas jouer à se faire peur. Il faut essayer de regarder pas simplement la légalisation comme l'ouverture et tout va être formidable, on met tout en marché dans les supermarchés. Non, c'est une régulation. La légalisation, ça veut dire régulation. Ouais. Ça veut dire qu'on peut enfin parler des choses et faire en sorte de informer d'abord, mais aussi limiter des accès. Hein, quand à Amsterdam, la maire parle de la légalisation, enfin de la cocaïne, elle ne parle pas de mettre la cocaïne dans les supermarchés. Elle parle vraiment d'une régulation très spécifique, ce qui se fait déjà pour l'héroïne, par exemple. L'héroïne médicalisée existe dans un certain nombre de pays et ça n'a pas amené une héroïne manie complètement actionnaire, au contraire.
En tout cas, la question est très sensible et le danger, c'est que l'égalisation soit assimilée au laxisme et que la gauche dénonce la droite qui vise la répression. Bref, c'est un sujet hautement politique. Merci beaucoup à vous trois.
Merci
Anne Souris, sénatrice du groupe écologiste, Ivana Obradovic, merci, directrice adjointe de l'Observatoire français des drogues et les tendances addictives. Et merci à Sarah Perrin qui était en ligne avec nous, sociologue. Merci à Florence Ponce à la préparation de ce débat, à Claude Battista à sa réalisation et rendez-vous sur RFI.fr pour réécouter ce débat du jour. Allez, dans un peu plus d'une minute, ce sera Clotilde Dumais pour le journal, puis le décryptage ce soir. Est-ce que les JO vont constituer l'épreuve de trop pour les festivals cet été? Grande question. Juste après, ce sera Afrique Soir. Bonsoir, Sylvie Berruet.
Bonsoir, Romain. Bonsoir.
Quel programme ce soir?
Alors, nous allons parler de l'insécurité alimentaire. 59 pays sont confrontés aujourd'hui. C'est plus de 281 millions de personnes qui ont faim. Et le phénomène s'est intensifié en raison des conflits à Gaza, mais aussi au Soudan. Nous parlerons également des violences policières en 2020. Trop au Kenya, elles sont pointées du doigt par plusieurs ONG. Exécutions extrajudiciaires, disparitions forcées. Alors Romain, même si les chiffres sont en baisse, ils restent toutefois accablants.
Eh bien, merci beaucoup. On vous écoutera dans 30 minutes sur Radio France Internationale.